bonsoir à tous, bienvenue ce soir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir tout le monde.
Le nouveau podcast de DLE DMV, de l'essence dans mes veines. On n'est que trois ce soir, mais bon, c'est pas grave, on a choisi les meilleurs. Hein, comme quoi, vaut mieux être être quatre qu'être mal accompagné. Putain, on va avoir des problèmes avec les autres membres de l'équipe.
Ça, c'est ce que me dit souvent ma copine.
Ouais, il vaut mieux que ce soit moi qui le dise. Au moins, ils ont
pas gueulé. De quoi mieux vaut être à trois que mal accompagné. Toi, je me ferai du souci, mec.
Là, je vais me faire des copains dans l'équipe. Là. Non, je déconne, bien sûr. C'était pour le lancement, faire quelque chose d'original. Ce soir avec moi, donc Julien et Martin. Et donc, comme dans tous les DLE DMV podcasts, on va discuter d'un thème ce soir qui nous tenait particulièrement à cœur, je crois, avec Martin. Et Julien nous a fait...
Parce que moi, j'en ai rien à foutre.
Si, non, mais...
tellement, je m'en carre le cul.
On parlait sport auto, donc je sais que sport auto, c'est pas trop ta tasse de thé, mais justement, c'est pour ça que tu nous as fait l'honneur d'être parmi nous ce soir.
Bah, ouais, parce que surtout que j'ai vu que personne n'allait s'inscrire, donc...
Voilà. On a tiré la courte paille, c'est tombé sur toi.
Faut bien quelqu'un pour combler les trous.
Voilà. C'est ce que non, mais c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins, on aura une vision un peu totalement détachée et totalement... comment dire,
naïve,
ouais, voilà, de ça, parce que bon, nous on trouve un peu chiant. Bon, Martin suit pas mal le sport auto parce que je crois que tu es photographe, c'est ça, en parallèle tu fais pas mal de clichés.
Ouais, exactement, ouais.
En rallye surtout
en rallye, ouais. C'est un petit peu ma marotte, ouais. Et bon, bah forcément depuis la crise sanitaire, les rallyes, c'est un peu compliqué, quoi.
Bah, tout, enfin, tu me diras, sur circuit, eux, ils ont la chance d'être en lieu clos, sauf qu'ils le font en huis clos, hein, donc c'est surtout ce côté un peu ridicule, ouais. Là, du sport auto, là, en ce moment, là, je ne sais pas, on va en parler. Julien, nous, on a quand même un peu maîtrisé le sport auto, puisque bon, tu as fait quand même quelques articles et sur de l'essence dans mes veines et dans Rétrocourses, hein, à l'époque où.
Oui, non, mais voilà, je dis, je m'en fous parce que c'est pas vrai.
Parce que c'est ton truc de dire que tu t'en fous dès que.
Voilà, c'est juste pour être un petit peu incisif, tu vois, d'être le petit poil à gratter.
Ah, tu nous as bien incisé alors.
En même temps, quand on est fan de Fiat, c'est sûr qu'il faut mieux éluder la question du sport auto parce que la gueule du palmarès, ça fait peur à voir. Mais bon, ça, c'était juste en passant. Quoi.
Non, je suis pas fan de Fiat, je suis fan d'italienne en général. Voilà.
Ouais.
Là de suite, ouais, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. Voilà, on fan commence... d'italienne.
Bon, d'ailleurs, tu nous parles depuis l'habitacle de ta 612 Escaglietti récemment acquise.
Exactement. Et voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Je suis confortablement installé dans mes sièges en cuir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas de bureau, moi.
Respect.
J'ai une bagnole, mais je n'ai pas de bureau. J'ai un garage et une bagnole. Voilà. C'est mon studio. C'est comme ça.
Avant de parler justement des huis clos, des machins, tout ça, je voulais qu'on attaque un peu en vous demandant votre avis sur l'événement qui a marqué la semaine dernière l'actualité du sport auto, donc qui est la rupture, ça y est, manifestement, le divorce est prononcé entre Sébastien Loeb et Daniel Elena, donc 23 années de carrière, si je ne dis pas de conneries, 9 titres. C'est ça, champion du monde.
C'est ça.
ProDrive qui a engagé le duo, c'était l'année dernière, hein, pour le Dakar. Bon, on a vu la vidéo, enfin, on a tous vu passer la vidéo de Daniel Elena bien remontée là, sur son éviction que lui a annoncé Sébastien Loeb. D'ailleurs, Sébastien Loeb, que je trouve qui est resté vachement. Vachement en retrait. Bon, tu vois bien, je trouve que ça colle bien avec le personnage. Voilà, il s'est pas mouillé, et je pense qu'il a eu raison.
Ouais, il reste à sa place. Et puis,
voilà, finalement, bon.
De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus ?
Voilà, donc c'était un peu
avant
votre sentiment là-dessus, la séparation, Loeb et Elena. Est-ce que c'est une crise dans le sport auto français, comme on l'air de l'avoir dit, une grosse partie des fans, et attention, c'est vrai que les fans sont quand même assez talibanesque dans leur façon de voir les choses. Bon, les médias ont eu aussi l'air de prendre à partie pour Elena en disant que c'était assez. Alors moi, je vais commencer par moi, en toute honnêteté. Les Beatles, un jour, se sont séparés. Moi, honnêtement, ça me touche la droite sans me faire bouger la gauche. Limite, bon, ben voilà, l'Aube et l'ENA qui se séparent. Ben, pour moi, c'est un fait de course, quoi. Limite, bon, bon, je l'ai raconté, elle était peut-être pas forcément drôle, mais quand l'Aube a débarqué en WTCC, bon, personne n'a fait d'esclandre parce qu'Elena n'était pas assis à côté de lui. Mais plus sérieusement, pour moi, j'estime que dans la carrière d'un puits, enfin voilà, voilà, à un moment, les mecs se séparent. C'est à partir du moment où, et c'est le pire que je leur souhaite à tous les deux, qu'ils continuent une carrière chacun de leur côté. Bon, Elena a largement prouvé de quoi il était capable, l'homme aussi. Bon, aujourd'hui, il y a un patron hein, qui s'appelle David Richards et qui s'appelle ProDrive. Bon, bah, le mec, écoute, il fait le chèque hein, à la fin du mois. Donc, je pense qu'il est quand même un peu en droit de donner son avis. Je ne dis pas qu'il est dans le vrai ou dans le faux, parce que ça, c'est des débats philosophiques de réseaux sociaux où les gens aiment bien perdre leur temps là-dessus. Mais bon, si Elena… moi, honnêtement, je serais à la place d'Elena plutôt que de faire un sketch comme j'ai fait, bah, j'irai chercher une autre écurie qui participe au Dakar l'année prochaine, j'irai accompagner un autre pilote, et puis bah, si honnêtement le bonhomme est sûr de ce qu'il vaut et de sa valeur, bah, moi ça me ferait plaisir qu'Elena l'année prochaine termine le Dakar devant l'Aube en disant, bah, et pour moi ça serait presque limite la meilleure réponse qu'il pourrait faire à ProDrive et à David Richards, quoi. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, Julien, toi qui es…
Alors, moi, bon, le Belena, bah, voilà, c'est un duo qui a marqué le rallye, machin, sport auto français, blablabla, tout ce que tu veux. Moi, ce que je pense, c'est que moi, je me place. Si tu mets de côté le sport auto et que tu te places du côté entreprise, une entreprise, elle ne se sépare pas de bons éléments. Si une entreprise se sépare d'un élément, c'est qu'un jour, il y a eu un problème et que ce problème-là, soit c'est récurrent, soit j'en sais rien. Mais une entreprise, elle n'a pas envie de se séparer des bons éléments puisque c'est les bons éléments qui font tourner une entreprise.
Tu as une vision hyper romantique du monde de l'entreprise, cher.
Je me place de mon côté, je suis un bon élément. Les entreprises n'ont pas envie de se séparer de moi, n'est-ce pas, Titi?
Oui. Hein ouais. Tous les Anglais aussi, il ne faut pas oublier, les Anglais ont une autre culture que nous, notamment dans le sport auto. Hein.
Non, mais après, voilà, il y a sûrement, voilà,
y a une raison.
Le seul point de vue qu'on a, c'est la vidéo de Daniel Elena et le patron de ProDrive qui a fait un espèce de démenti ou un espèce de, voilà pourquoi on a fait ça, j'assume ceci, cela. Mais il y a eu, ça fait combien de temps qu'ils sont chez ProDrive? Ça fait quoi? Ça fait 5 ans?
Non, même pas.
Non, ça fait. Non, ça... Mais bon, enfin, il y a certainement eu un certain nombre d'éléments qui ont fait qu'ils en sont arrivés là aujourd'hui, dont ni toi, ni moi, ni personne, à part les gens de ProDrive, Daniel Elena et Lub, qui sont au courant de la raison qui a fait qu'ils en sont arrivés là. Donc, partant de là, on n'est pas dans le secret, on n'est pas chez ProDrive, on n'est pas. C'est fait. Ben voilà, les Daft Punk, ils se sont séparés. Moi, j'adore Daft Punk. Hein. C'est mais ça. Ils se sont séparés il y a quelques mois. On aurait dit ils étaient morts. Mais c'est bon, ils se sont séparés. Quoi, on va faire quoi? On va leur mettre une stèle dans tous les cimetières parce qu'ils ont marqué la musique électronique. Il faut arrêter de déconner.
Il y a plus grave que ça, quoi.
Je veux dire, ils se sont séparés. Les Beatles se sont séparés. Manque que les Rolling Stones se séparent et là, de suite c'est pareil, tu vas croire qu'ils sont morts, bon même s'ils sont
Ça sera pareil. C'est peut-être la seule raison pour laquelle ils se sépareront.
C'est ça. Non mais bon, voilà, il y a trop de choses dont on peut pas juger la teneur ni les tenants et les aboutissants de la décision. Bah voilà, l'Hub il continue de son côté, Elena il va continuer de son côté, et eux ils restent bons copains. Bah, Danos il ira plus chez ProDrive boire le café, et puis voilà, faire autre chose, putain, c'est bon, faut arrêter les conneries, quoi. Oui, bon, c'est pas bien, bah ouais, mais est-ce qu'il y a des bonnes façons de le faire?
Non, bah, moi, je crois pas. Je sais pas, toi, ton avis, Martin.
Bon, c'est quand même assez, tu vois, Julien minimise beaucoup l'ampleur, peut-être parce qu'il n'est pas fan, tu vois, mais c'est vrai que quand tu vois ce que le duo a accompli, c'était quand même vraiment des poids lourds du sport auto français, et surtout dans le rallye, pour une fois, sans mauvais jeu de mots, sur le tour de taille de Daniel et Luna, le copilote avait presque autant de poids que le pilote, quoi, tu vois. C'est, en fait, on ne parlait pas de Sébastien Loeb, on parlait du duo Loeb et Luna. Il y avait vraiment un binôme qui était mis en avant, une complicité qui, quand tu lis le bouquin de Loeb, Ma ligne de conduite, remonte au tout début, quoi, quand ils ont commencé. Elena, il a grimpé en Alsace depuis Monaco et il dormait sur le canapé de la Daronne à Loeb, quoi. Tu vois, à l'époque héroïque, ça n'a pas été rien non plus. C'est un duo qui s'est forgé au bas de l'échelle et pas juste dans le bling-bling des 9 titres. Et il y a une belle amitié qui est née de ça. Après, donc, ouais, forcément, je peux comprendre que ça touche les gens de voir une telle carrière, entre guillemets, aussi belle. Et aussi inspirante, puisque c'est des mecs qui sont partis de pas très haut et qui ont atteint les sommets à la seule force de leur talent et quelques belles rencontres que la vie a mis sur leur route. Donc c'est, ouais, je peux comprendre qu'émotionnellement ça touche. Après, d'un point de vue professionnel, ouais, c'est sûr que Loeb, bon ben voilà, il avait déjà sauvé les fesses d'Elena plus d'une fois à l'époque où ils étaient chez Citroën. Sur quelques petites bourdes à droite à gauche, sur quelques épreuves, notamment, si je ne dis pas de conneries, un rallye de Turquie à l'époque de la Xara, où Elena s'était foirée dans les calculs de consommation et du coup, il s'était tombé en panne sèche sur le routier. Donc voilà, un copilote lambda, pour ça, il saute direct et sans forme de procès. Sauf que le duo Loeb-Elena était tellement soudé, tellement balèze, qu'en plus d'annoncer les notes, bah, c'était un peu le talisman dans la bagnole, quoi. Donc les managers successifs, les team leaders successifs, bon bah ok, on en prend un, on prend les deux. C'est, voilà, c'est son porte-bonheur, c'est son gris-gris, l'un va pas sans l'autre. Si on veut le coup de volant de l'un, il faut qu'on ait l'autre. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup protégé Daniel Elena tout au long des années, parce que si Daniel Elena, je ne le connais pas personnellement, mais de ce qu'on peut ressentir du personnage a un défaut, c'est que le mec, il est profondément humain. C'est-à-dire avec ses failles, avec ses coups de gueule, avec ses coups de griffe. Et on sait tous autant qu'on est. C'est pour ça que je me permettais la petite vanne à Julien tout à l'heure sur le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les profils comme ça, ça ne paye pas. Et dans le monde de l'entreprise, quand tu ouvres ta gueule, tu as plus tendance à te retrouver dans la ligne de mire que sur le podium. Donc voilà, dit Elena, il a été protégé par l'aura de Sébastien Loeb pendant X années. Mais aujourd'hui, bah, c'est dans un management un peu plus rigoureux comme ProDrive en Angleterre, bah forcément, ça finit par coincer, quoi. Sébastien Loeb qu'il est.
Je rejoins Julien. Je pense quand même que derrière tout ça, il doit y avoir du non-dit. En tout cas, il doit y avoir une bonne raison au-delà de ce que on nous a laissé entendre. Parce que bon, si Richards, bon, après Richards, oui, on va être clair, hein, c'est pas un exemple d'intégrité, d'honnêteté. Bon, le mec, il est quand même assez réputé pour quelques coups. Au-delà, bon, quand même de la course, enfin, comment dire, des faits de course qu'ils ont fait grâce à ProDrive, puisque notamment en WRC avec les Subaru, ils ont fait courir aussi les Aston Martin, hein, si je ne dis pas de conneries, en GT. C'est eux qui ont engagé, on a fait un article dessus, la Ferrari 575 Maranello en GT, et qui avait été confiée d'ailleurs à Colin McRae. Colin McRae a couru en GT grâce à ProDrive. Bon, il était plus habitué, entre guillemets, au coup de marketing, au coup de com, qu'au vrai coup de sport. Bon, il a peut-être eu la chance, dans certains moments de sa carrière, d'avoir été, entre guillemets, assimilé équipe officielle. Hein. C'était le cas avec Subaru et c'était un peu le cas avec Aston Martin. C'est ce qui lui a permis d'avoir des budgets qui lui ont permis d'eux. Mais bon, après, voilà, moi, je pense qu'il y a surtout des choses de... Après, moi, honnêtement, je leur souhaite autant de bien à l'un qu'à l'autre. Mais je pense que, justement, les deux, pour moi, peuvent avoir une carrière chacun de leur côté, sans que ça entache leur amitié. Bon, je pense que pour ça, ils sont suffisamment intelligents, et l'un et l'autre. Non, moi, après, j'ai trouvé quand même une grosse partie des réactions vis-à-vis de Loeb très dur. Tu vois, le mec, il ne veut pas se mouiller. Tu vois que le mec, bon, presque, bon, ben, lui, la décision. C'est un homme d'affaires aussi, hein, Loeb. Hein, voilà.
En même temps, il est sous contrat, le mec.
Mais voilà, donc tu vois que Loeb, on lui a dit, écoute, ça va se passer comme ça.
Son patron, parce que son copain s'est fait virer. C'est surtout à l'heure actuelle où la sphère médiatique.
Non, puis, enfin, faut bien dire un truc aussi, c'est que si Loeb, il avait dit, bah non, bah moi, c'est soit avec Danos, soit rien. Enfin, il aurait claqué la porte de ProDrive. Enfin, je pense que ils auraient été au moins une dizaine à lui faire sonner son téléphone en disant viens bosser pour nous.
C'est ça.
Non, mais... voilà. Si Lub il a décidé de rester chez ProDrive, c'est sûrement qu'ils lui ont proposé un projet, qu'il avait un truc derrière. Parce que c'est attends, t'imagines le nombre de personnes qui doivent vouloir embaucher un mec comme Lub. Attends,
ouais, puis honnêtement, même limite, il n'a pas besoin d'un team, hein, il a le sien. Mais je veux dire, c'est surtout quand les mecs te disaient question de pognon, question de marketing. Moi, je pense qu'un pilote, ce qu'il veut là-bas, c'est piloter. Il veut, c'est comme un footballeur, un mec qui veut jouer dans des équipes qui peuvent lui permettre de gagner des titres, quoi. Donc, si Lob, c'était pour se retrouver dans des équipes de plan B, bon, bah, limite, il ferait mieux de se monter son équipe lui. Ouais, non, mais je te rejoins. Je pense que ça fait beaucoup. Oui, je rejoins Martin dans le côté. Bon, voilà, Lob et Elena.
Bah, il y a l'affectif, bien sûr.
Voilà, c'était une institution du sport auto français. Bon, c'est. Voilà. Mais après, pour moi. Faut passer à autre chose, quoi. Et je pense que justement, les deux sont suffisamment intelligents pour rebondir, quoi.
Oh, après,
il y a trop d'affect en fait là-dedans. Il y a trop d'affect et c'est normal. Hein. Voilà, 23 ans de vie commune, si on peut appeler ça comme ça. Forcément, hein, tu ressors pas comme si tu connaissais le mec depuis 2 semaines. Mais il y a aussi le monde de l'entreprise et ils ont été un peu ils ont été happés par ce monde-là. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, malheureusement, c'est la vie et c'est le monde du travail. Ouais, c'est le sport auto, quoi.
Ouais, puis le sport auto,
c'est une activité professionnelle comme un autre.
Justement, le sport auto, tu m'offres une transition formidable puisque finalement. Bon,
là, je l'avais préparé, c'est pour ça.
Ouais, mais je vois ça, je vois. Mais voilà, hein, 2021, là, les saisons vont commencer. D'ailleurs, un petit bravo au trio de pilotes français qui a remporté les 12 heures de Sebring là, ce week-end. Hein, Duval, Bourdet et rappelez-moi, rafraîchissez-moi la mémoire du troisième. Merci, les gars.
Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. La prochaine fois que tu n'as rien à demander, tu nous appelles.
J'aurais mieux fait de fermer ma bouche. T'as trouvé
Vautier.
Ah voilà, Gautier. Ouais. Donc
Vautier, Duval et Bourdet.
Vautier, Duval et Bourdet. Voilà. Donc un bel exploit tricolore à Sebring week-end dernier. La F1, si je dis pas de conneries, va pas tarder à attaquer sa saison. Bon, le rallye, c'est un peu plus compliqué. Hein. On l'a vu avec le Monte Carlo, avec les épreuves qui se courent à huis clos. D'ailleurs, bon, on va en parler. Hein. Les rallyes à huis clos, moi, il y a un truc, c'est peut-être mon esprit mathématique et pragmatique, mais je n'arrive pas à comprendre la logique du rallye à huis clos. Voilà, puisque le concept du rallye, c'est de le faire, sur des routes fermées, mais ils font quoi, en fait, les commissaires, ils sont armés. Et s'il y a un spectateur qui pointe le bout de son nez, il tire.
Il le pousse sur la route, comme ça.
D'accord. Ils font une chicane mobile.
Là, je pense, avec ce petit, cette petite anecdote sur la pratique des rallyes à huis clos que tu soulèves, je pense qu'on arrive sur un malaise français très profond, c'est-à-dire cette faculté à faire des lois, des normes et à ne jamais les appliquer.
Ouais.
Voilà, il y a une transition qui est là. Puisque, en fait, si on connaît un petit peu la réglementation du rallye officiellement depuis 4 ou 5 ans maintenant, quand un rallye se déroule, on n'est plus censé y assister en dehors des zones spectateurs définies par l'organisateur.
Ouais, tu as les zones balisées sur les plans. Voilà,
c'est ça. Soit une dizaine de parkages sur l'ensemble du parcours. Selon la loi, on n'est pas censé voir le rallye en dehors de ces parkages. Or, le fan de rallye étant par nature assez adepte de liberté et de randonnée pédestre dans la campagne, et puis aimant bien aussi être à 2 mètres de la route au lieu de 100 et dans un endroit où ça risque de sortir plutôt dans une ligne droite, forcément, ça n'a pas été trop appliqué. Et comme le rallye, les pouvoirs publics s'en tamponnent un peu, on n'a jamais été trop contrôlé non plus. Ce qui fait qu'en fait, malgré cette loi, ça a continué à se dérouler comme avant. On va dire que tu avais les riverains qui venaient dans la zone publique, et puis voilà, les fans, les photographes et tout, ils étaient comme à l'ancienne, ils étudiaient leur parcours, et puis ils allaient se poser là où il voulait sur le long du parcours et il passait leur journée là. Sauf que avec les normes sanitaires, bah, du coup, sur le papier, c'est un événement qui regroupe un grand nombre de gens dans un lieu restreint. Donc, bah, en fait,
restreint, ça dépend de la taille de la spéciale.
Bah, de la zone spectateur, Julien.
Ouais. Oui, oui, bah oui, bah oui, voilà, forcément, oui.
Elle est cantonnée sur un virage ou un autre. Oui. Et voilà, c'est un petit peu un petit enclos, tu vois. Mm. Donc, en fait, techniquement,
en fait, tu...
un rallye, il est censé se dérouler dans un stade, en fait.
Tu es en train de nous expliquer que les normes de ces... Parce que moi, j'allais faire un comparatif. On a tous vu passer les photos du Paris-Nice cycliste qui s'est déroulé la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on voyait les gens massés au bord de la route, avec ou sans masque, ça c'est un autre débat, hein, mais où tu te... Et je comprends la réaction des passionnés de bagnole, que ce soit circuit, que ce soit rallye, ou voire même les deux, parce que moi ça me saoule un peu dans la bagnole, cette opposition circuit-rallye. J'en ai discuté avec des personnes qui ne cessaient de me demander, à me dire, ouais, mais toi, tu es plus circuit que rallye. Hein, d'anciens propriétaires d'un magazine qui manifestement trouvait qu'il fallait plus de rallye parce qu'il y en a un qui aimait le rallye et l'autre qui préférait le circuit. Moi, je pense que j'ai eu la meilleure réponse que je pouvais leur faire en leur disant, moi, je n'aime ni le circuit ni le rallye, j'aime les bagnoles. Je suis désolé, hein, et moi, une bagnole sur un circuit ou une bagnole sur un rallye, je kiffe de la même façon, que ce soit l'une ou l'autre. Mais voilà, j'allais revenir à ce parallèle avec le Paris-Nice. Donc, tu es en train de nous expliquer qu'en fait, les normes de sécurité du rallye font que bah, c'est ça qui a fait que ça s'est retourné contre les spectateurs, puisque étant donné que sur le cycliste, dans le cyclisme, les gens peuvent se masser le long de la route, il n'y a pas de zone spectateur.
Moi, je veux bien qu'on me masse le long de la route aussi.
Hein c'est surtout, pas parce que Tim est absent qu'il faut le remplacer, Julien.
On lui dira.
J'avais dit qu'on allait faire une émission exceptionnelle ce soir. Mais c'était écrit. Et ouais, alors que sur le rallye, étant donné que les gens doivent être... Trouvez-moi un synonyme de masser, s'il vous plaît. Agglutiner. Je vais ressortir un mot du 17e siècle, tu vois. Je vais faire mon caradoc.
Entassé,
voilà. Étant donné qu'il faut entasser les gens, ça fait un peu partout.
Que les personnes soient assises dans le même virage.
Voilà. Putain. Oh là là, dis donc. Sachant le niveau.
Ça dépend de la...
les gars, c'est pas le même niveau que mardi dernier, là, de coup.
Ah bah, tu croyais quoi, mec? T'as engagé.
Ah non, mais je savais que, ce soir, je vais te dire, c'est l'élite. C'est l'élite de naissance dans mes veines. Allez, je remets une couche, hein. S'ils ont raté le début, comme ça.
Ouais, vu ton âge, ouais, vaut mieux. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé, t'es pas encore allé pisser, ouais. Il serait temps. Ouais.
Ah, j'ai pris mes précautions, ouais. J'y suis allé. Non, mais je me fais dessus, en fait, maintenant, je m'emmerde. Non, mais en fait.
Tu as signé ton sponsoring avec Tenor.
Ouais, c'est ça. Ouais, on n'a pas finalisé. Normalement, la prochaine émission sera sponsorisée par Téna. Donc, donc tu me dis, en fait, c'est la réglementation de la ouais. FFSA ou de la FIA qui, en fait, s'est retournée contre le rallye. Alors, bon, après, c'est malheureux, putain, tu vois. Pas forcément pour les gros rallyes, parce que c'est pareil, il y a quand même.
Tous les événements sportifs sont logés à la même enseigne.
Oui,
c'est ce que j'allais dire. Tu regardes les matchs de foot, les matchs de rugby, tu regardes. Voilà. Putain, ils sont obligés de mettre des faux brouhahas de supporters dans les stades pour que ça devienne intéressant, quoi.
Ouais, regarde dans The Voice, ils mettent des écrans.
Voilà.
Après, ouais, bon, moi je veux bien. Moi,
tous les sports qui se déroulent dans un lieu clos. Ouais. Et en fait, le cyclisme, c'est le seul à passer au travers des balles parce que c'est le seul sport professionnel qui se déroule sur la voie publique. Parce qu'il y a aussi la notion de professionnalisme.
Oui, c'est ça, voilà, dans leur voilà. C'est pour ça que le WRC se fait à lieu clos. Bon, voilà. Après, il y a aussi une question économique, c'est que le WRC, bon, tu as la FIA derrière, tu as les organisateurs qui a quand même des mannes financières, alors que le petit rallye régional organisé par l'ASA du coin, les mecs, eux, ils ont besoin d'avoir du monde pour eux.
C'est compliqué. C'est en tant que frontalier… Je suis un peu ce qui se passe en Belgique, qui est niveau rallye, un championnat, et même au niveau provincial, donc l'équivalent du régional chez nous, assez prolifique avec beaucoup de pilotes, beaucoup de voitures, et tout était au point mort. Mais là, c'est pour un cas différent. C'est parce que, tout simplement, avec la saturation des services de secours, bah, forcément, les organisations ne trouvent plus de quoi assurer le secours. Et les normes aussi sont, tout comme chez nous, tellement fluctuantes qu'ils ne peuvent pas s'engager à horizon 6 mois pour organiser un rallye avec les normes du jour où ils démarrent l'organisation, ne sachant pas si les normes qu'on leur demandera le jour J seront les mêmes. Dit pour des orgas qui sont quand même en grande majorité bénévoles pour les ASA dont tu parlais, c'est juste pas gérable. Tu peux pas.
Après, moi, je me pose la question de la survie de ces petites ASA, de ces petites fédérations, parce que les mecs, cette année, ça va être… Autant l'année dernière, il y en a qui ont réussi à passer entre les mailles du filet avant le confinement au mois de mars et entre mai et
voilà, octobre. Pour la festival, ouais.
Autant là, cette année, ça semble quand même plutôt mal barré. On le voit même sur les salons. Hein. Là, tout est quasiment verrouillé, annulé. Rétromobile a directement préféré botter en touche pour demain. Bon, de toute façon, ils n'ont pas eu le choix. Hein.
Les ASA, sans être dans le milieu, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour eux, puisque c'est quand même des structures qui sont essentiellement bénévoles. Et le gros challenge, quand ils organisent leurs épreuves de l'année, bah, c'est d'atteindre l'équilibre. Ce n'est pas de faire du bénéf.
Oui, c'est ça. Oui,
je voulais te dire, au moins, quand ils font rien, ils sont sûrs de
ne perdre pas d'argent. Quoi.
Voilà. Donc, pour eux, je ne me fais pas trop de soucis. Après, là, ça fait quand même bientôt une saison complète. Ça fera peut-être une saison et demie si la situation n'est pas rétablie en fin d'année. Là où je me fais du souci, par contre, c'est pour les concurrents. Quoi.
Oui, parce pour les pilotes.
Rien, voilà, les mecs ils vivent du sponsoring quand même. Hein. Même si ça ne leur paye pas la gamelle, bah, ça leur paye de quoi faire rouler la voiture. Et devant l'absence de retombées, j'ai envie de te dire, quand tu es un crack, que tu roules en national et que tu es épaulé par Michelin ou Motul ou je ne sais quoi, bon bah, la gamelle sera toujours là. Par contre, quand tu es un petit concurrent amateur du coin et que c'est ton boucher, le bar tabac et la société de béton du secteur qui te file un petit billet chaque année, bah, eux, sachant que les temps sont durs pour eux, ils vont peut-être arrêter de te filer un billet sachant que tu roules même pas quoi. Donc effectivement pour les plateaux, pour le sport amateur, ça va peut-être être compliqué à la longue quoi.
Vous y croyez à la reprise du sport auto? Est-ce que c'est pas là une petite période avec cette petite tendance écolo qui est en train de ce que ça devient de plus en plus compliqué hein, aujourd'hui pour organiser un rallye quand tu vois les contraintes administratives en fonction des mairies endroits.
Et tout, ouais,
voilà, les mairies, puis même, tu as les écolos aujourd'hui. Hein, nous, je vois sur la région, le Ventoux, tout ça. La différence qu'il y a, c'est qu'avant, tu posais ton dossier en préfecture. Une fois que tu avais la validation de la commission à la préfecture, ça passait en commission au niveau du parc. Donc, nous, au Ventoux, c'était le parc Natura 2000 qui donnait son approbation ou pas. Mais enfin, à partir du moment où la préfecture avait validé, bon, il fallait vraiment que tu sois passé à côté où on a eu le cas il y a 2 ans pour une histoire de nid, de faucon ou de vautour, j'en sais trop rien, où là, Natura 2000 a mis son veto. Sauf que depuis l'année dernière…
C'est à cause des vrais cons.
Voilà. Ah non, mais ouais. Depuis l'année dernière, les choses se sont inversées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu déposes ton dossier. C'est d'abord les écolos qui vont étudier, voir si oui ou non tu es dans les normes que eux ont décidées. Et à partir du moment où eux donnent leur feu vert, c'est là où après ça passe en commission préfectorale. Donc ça va devenir de plus en plus. Moi, honnêtement, je ne veux pas faire mon sceptique de base, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi une façon là, qu'ils ont trouvée pour épurer un peu le système dans certains endroits et peut-être garder après des épreuves nationales ou essayer de décourager les organisateurs de petits rallyes.
Alors,
à gauche
moi, je
à droite,
ne
doute
pas que ça va servir pour égrener ce dont les gens n'ont plus envie. En fait, s'il y a des trucs dont ils n'ont plus envie de se faire chier avec, ils vont se servir du Covid pour s'en débarrasser.
C'est ça, c'est ça.
Après, je pense pas que ce soit la mort du sport automobile. Je pense que, de toute façon, même pas que dans le sport automobile, mais après ça, ce sera fait de manière différente.
Oui.
Ce sera plus comme avant, c'est clair, mais ce sera plus comme avant partout. De toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, faut s'habituer à vivre autrement. Et le sport automobile, ça fera pas exception. Alors, par contre, s'il y a une exception, c'est quand même la Slide qui, eux, sont toujours arrivés à organiser des events. Alors, je sais pas comment ils font.
Ils le font. Alors, aujourd'hui, tu peux organiser. Là, justement, on était en discussion avec Tristan, avec qui on fait notre Ventoux Auto Sensation tous les ans. Il y a une journée drift qui doit se faire au Ventoux. Là, cette année, le dossier a été posé pour le 18 avril. Tu ne peux avoir l'autorisation qu'à partir du moment où c'est une journée professionnelle. C'est-à-dire, c'est comme si tu loues le Paul Ricard pour une association qui est encore des journées club sur les circuits, mais c'est hyper… ça veut dire que tu dois presque dire ce jour-là, il y aura 20 personnes, pas une de plus, pas de spectateurs, machin, patin, quoi. Alors, tu me diras encore une fois, sur un circuit, c'est simple. Sur un circuit, tu fermes le portail, les mecs… Allez, de nom, quand ils font les journées club, on te file le code quand tu arrives au circuit. Si tu es rencardé, tu as le code. Si tu n'es pas rencardé, tu ne rentreras pas. Encore une fois, faire une journée drift, ce n'est même plus des journées drift, maintenant, c'est des journées touguées qu'ils organisent. Faire une journée touguée au bord de la route, le mec qui est venu ramasser les champignons ou qui est venu promener, comment tu veux l'interdire de se poster au bord de la route et de… c'est ça. Donc là, oui, en fait, la Slide y arrive juste parce qu'aujourd'hui, ils font des journées professionnelles. Donc, ce sont des pilotes.
Oh, mais ils avaient fait un event l'année dernière. Après le confinement, avec public et tout. Hein.
Ben, nous, on avait fait l'année dernière, ils avaient fait comme d'habitude, ils avaient fait leur…
Bah oui, tu étais en plus.
Oui, on avait fait… Non, on n'était pas confinés encore. Ils avaient fait la chapelle du bar et 15 jours après…
C'était après ?
Non. C'était au mois d'août qu'ils l'avaient fait.
Ben oui, c'était après le confinement. Ouais.
On n'était plus confinés, ouais. Ouais, mais bon… Ben oui. Mais après, ils n'avaient pas fait… L'avantage de la Slide… C'est qu'ils ne font plus des journées de championnat. Ils ne font plus de championnat à la Slide. Ils font des journées roulage.
C'est de l'exhibition. Ouais.
Donc, eux, leur seul truc, c'est d'avoir l'autorisation de la mairie et l'autorisation préfectorale. Une fois comme nous, quand on fait nos journées baptême au Ventoux, nous, on n'a pas besoin d'avoir… On le fait par acquis. Et comme Gabi d'ailleurs le fait, il a des commissaires officiels, FFSA. Nous, c'est ce qu'on fait aussi sur nos journées. On a des commissaires. C'est juste pour apporter de la crédibilité à notre dossier en préfecture. Mais tu n'es pas obligé, puisque logiquement, même on ne devrait même pas avoir de commissaire, puisque logiquement, les commissaires, et Martin me le confinera, sont obligatoires qu'à partir du moment où c'est une étape chronométrée. À partir du moment où c'est une étape, entre guillemets, de roulage, tu n'as même pas besoin d'avoir des officiels, sauf si tu fais une journée dans un championnat, bien entendu, comme faisait la Slide.
Voilà. Après, sur ça, je connais un petit peu moins le circuit, mais j'ai fait quelques track days à Croix-en-Ternois. Et tu as quand même une présence des commissaires sur place.
Donc, oui, bah après, mais beaucoup le font parce que…
Formés et tout, tu vois.
Beaucoup le font par habitude. C'est comme… la seule contrainte normalement que tu as, c'est la dépanneuse et le médecin urgentiste ou les pompiers, qui sont obligatoires quel que soit l'événement que tu fais. Ouais. Mais la plupart du temps, la plupart des organisateurs, que ce soit du championnat ou que ce soit sur de la journée roulage, c'est tous des commissaires homologués qui sont là. Hein. Mais ouais, la Slide arrive, je te dis. Là, le dossier, hier, on en a parlé, le dossier a été posé en préfecture. On va voir, hein, est-ce que ça va être validé? Est-ce que on reste dans les journées roulage professionnelles? C'est avec Axel François. Et on va voir si c'est validé.
18 avril, tu dis?
18 avril, ouais, sur le Ventoux, là où on fait nos baptêmes, hein, côté Malocène.
Tu vas me voir débarquer là, parce que mon 70-200, il prend la poussière depuis un an.
Ah bah, il va falloir le dépoussiérer alors. Hein.
Voilà, faut que je fasse cliquer le boîtier là, sinon.
Enfin, quand tu parles du 70-200, tu parles de ton objectif, de ton appareil photo.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Vu l'émission de mardi dernier.
Parce que je cherchais une bagnole. Qu'est-ce que ça peut être une 70-200? C'est quoi ça? De quoi qu'il parle celui-là? J'ai jamais entendu.
Donc pour en revenir au sport auto, moi je suis, oui, je te rejoins, c'est comme les salons, à un moment réunir 2000, 3000, 4000 personnes dans un lieu clos. Moi je vois, on est nominé au Rétro d'Or, la remise des Rétro d'Or. D'ailleurs, si on ne l'a pas, ça sera à cause du Covid. Hein. Parce que les Rétro d'Or, logiquement, la remise des prix, la remise des Rétro d'Or devait se faire à Époque Auto. Si je ne dis pas de conneries, Époque Auto, normalement, ça aurait déjà dû se dérouler. Donc, on était en tête de notre catégorie. Donc, on aurait dû avoir notre rétro d'or.
On est déjà gagnant.
Voilà.
Donc, on est déjà gagnant.
Bon, on est toujours en tête. Putain, moi, je suis fier. Attends, on est en train quand même de casser la rondelle à des poids lourds. Hein. Auto Plus, y a qui derrière nous? Sport Auto, Automoto.
Après, en même temps, Auto Plus, depuis qu'ils n'ont plus Rémi Bricoletout, ça a vachement baissé.
Ah putain.
Ah ouais. Rémi Bricoletout, l'image d'Auto Plus.
Putain, chaque fois, je l'oublie. À chaque fois, j'ai envie de chialer quand j'entends.
De bien que j'ai fait exprès de la balancer.
Je serais abonné à Auto Plus rien que pour lui. Voilà. Le Coluche de l'automobile, Rémi Bricoletout.
Non, parce que Coluche, à la limite, il était marrant. Quoi.
Oui. Ah, mais Rémi, lui, la différence était là. Rémi, lui, il était marrant, mais quand il ne le faisait pas exprès. Quoi.
À la limite, tu remplaces la veste rouge par une chemise à fleurs, c'est Carlos. Hein.
Oui, c'est plus ça. Ouais, t'as dans le Carlos de l'automobile.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Mais non, donc bon, écoutez, la remise des prix normalement du rétro d'or devrait se faire au départ du Tour Auto. Donc au mois de. Et les votes vont être arrêtés, je crois, fin juin. Donc, allez voter, hein. On a besoin de vous.
Allez voter.
Voilà.
Vous voyez l'adresse qui s'affiche sur vos écrans ou pas?
Ou pas, surtout. Qu'est-ce que tu disais,
cliquez,
Martin?
Cliquez. Je disais, ils l'ont décalé le Tour Auto. D'habitude, c'est en mai généralement.
Ils l'ont redécalé. Alors, je, honnêtement, Peter Auto, c'est un bordel pareil. Mais moi, je trouve qu'ils font tous preuve d'un optimisme sans faille en disant « vous inquiétez pas ».
Parce qu'en plus, pour le Tour, eux, ils se collent la double peine parce qu'ils ont de la voie publique et du circuit.
Oui, il y a le Mans Classique aussi là, qui est toujours maintenu. Hein. Mais mais c'est compliqué, effectivement. C'est compliqué là, en ce moment pour tenir les…
Après, ouais, l'espoir vient. L'espoir vient peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Là, il y a la NASCAR qui a redémarré il y a un mois maintenant. Les premières épreuves à Daytona sont en fait à huis clos. Et depuis les dernières épreuves, ils ont une jauge pour le public. Donc, ils ont quand même, je crois, 20 ou 30% de la capacité du circuit en termes d'accueil de public présent sur place. Donc, il recommence à y avoir du monde au bord des pistes. Après, c'est les États-Unis.
Ouais, aussi. Ouais. Le Tour Auto, voilà. Le Tour Auto, ils ont fait comme l'année dernière. Ils l'ont décalé à cheval fin août, début septembre. Bon, pour le moment, ils ont maintenu le Mans Classique, le Grand Prix de l'Âge d'Or, Nogaro Classique. Et bon, nous, c'est surtout là, il y a les 10 000 tours du Castellet dans un mois, hein, un peu plus d'un mois, le 30 avril, du 30 avril au 2 mai. Mais bon, je pense comme l'année dernière, ils vont se courir à huis clos. Après, il faut être clair aussi, hein, moi j'y suis allé l'année dernière, bon, toutes les grosses écuries anglaises, tout ça n'était pas là, hein, les mecs, ils n'ont pas fait le voir. Bon, heureusement qu'en France, on a la chance en historique d'avoir des teams comme Équipe Europe qui ont un plateau juste exceptionnel. Mais bon, quand les Anglais débarquent, ça envoie du lourd aussi. Hein. Mal. Donc, on n'avait pas le plateau de GT40, le plateau de type lightweight qu'on a l'habitude de voir tous les ans, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Non, mais voilà, moi je suis réellement assez sceptique. Oui, je pense qu'en tout cas le sport auto reprendra. Bon, je me fais pas de soucis pour tout ce qui est estampillé FIA, mais je pense que tout ce qui sera après estampillé FFSA, et plus on descendra dans les échelles de, déjà que c'était sans le Covid, ça commençait à être chiant à réussir d'organiser quelque chose, alors, en plus avec le Covid. Par contre, après, je te rejoins, Julien, ça n'empêche pas de… Et c'est ça, moi, que je reproche un peu aux institutions, c'est que les mecs, aujourd'hui, tout le monde attend, mais à un moment, ça n'empêche pas de commencer à réfléchir sur peut-être de nouvelles façons de faire… Bon, il y a le VHC, le VHRS qui prenait vachement au niveau de l'historique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de revoir un peu comment organiser des rallyes? Comment le faire intelligemment, sans forcément se foutre à dos les écolos, sans forcément se foutre à dos toutes ces institutions. Bon, voilà. Bah,
sans se foutre à dos les écolos, maintenant, non, c'est plus
possible. Bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, maintenant, on y a droit. Ouais, hein.
Ouais. En fait, franchement, tu peux plus buter des vaches, tu peux plus buter des animaux. Franchement, tu peux plus faire des reprocs diesel qui crachent du feu noir sans qu'on vienne te faire chier. Alors, bon, voilà, les écolos, tu peux rien faire sans qu'ils gueulent. Voilà, tu peux plus foutre le feu à une forêt. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Sérieux, merde.
On peut plus s'amuser. Hein.
Non, bon, mais après, c'est vrai, je veux dire.
J'ai envie de te dire, pour organiser dans le monde d'après, il y a une solution assez facile, c'est d'en avoir rien à foutre de tout. Si tu organises des courses façon Gumball, route ouverte, tu vois, pas de sécurité et tout, t'en as rien à foutre. Et puis ça va passer crème. Et puis, norme Covid ou pas norme Covid, la course, elle aura lieu. Bon, après, il y aura peut-être quelques monospaces diesel de père de famille satellisés dans les bandes d'arrêt d'urgence. Mais voilà, ça, c'est une variable d'ajustement.
Il y a l'électrique hein, qui arrive dans le sport auto. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu passer l'info. Là, bon, je ne l'ai pas partagé parce que bon, pour moi, ce n'était pas forcément intéressant. Mais il y a Tesla là, qui a présenté une version de sa Model 3 qui va participer à PikeSpeak. Il y a, comment il s'appelle, Beltoise, donc pas Anthony, son frère, qui vient de présenter une. Une bagnole qui va pour une formule monotype. Bon, on en parlera, hein, l'électrique. Oui, c'est pas notre tasse de thé, enfin, je veux dire un mot, mais moi, honnêtement, hein, le temps passant, je commence à me résigner. De toute façon, ça sert à rien d'aller s'élever tout seul face à un truc où, de toute façon, tu sais, voilà, la vague, tu la vois arriver, on sait qu'on va se la prendre dans la gueule. Donc, ça ne sert à rien de se dire, attends, je vais mettre mes bras en croix, comme ça, au moins, l'eau ne va pas me toucher. Non, bon, à moins de s'appeler Sangoku, mais je ne vois pas trop le délire. Donc, moi, je. Bon, y a l'électrique, finalement, le seul truc qui est incompatible avec le sport auto, c'est le bruit. Mais honnêtement, tu vas voir une course de Carrera GT aujourd'hui. Voilà, moi, je suis allé voir il y a 3 ans, 4 ans, aller de long, déjà une course de Carrera. Enfin, merde, tu regardes le sport auto dans les années 70, dans les années 80, à l'époque des 2 litres 8 RSR, à l'époque de. Putain, t'en as la chair de poule d'entendre les hurlements. Aujourd'hui, tu es à 10 mètres de la piste, avoir passé des carrières AGT. Tu as presque des bagnoles qui gueulent plus dans les journées club, où les mecs débarquent avec des lignes d'échappement inox parce qu'ils ont préparé leur bagnole, qu'à une course de carrières AGT où les caisses aujourd'hui sont limitées à tant de décibels. Moi, je trouve que ça tue la magie du sport auto.
Non, mais alors, est-ce que pour les courses d'électrique, est-ce qu'ils vendent de la bière sans alcool et des sandwichs autofou?
Bah, bien entendu.
Parce que aller voir une course de bagnole, c'est quand même là tout l'intérêt premier, c'est pas d'aller voir une course de bagnole, parce que clairement, quand tu vas voir une course de bagnole, tu vois rien. Tu les entends passer, tu les sens. Ah, j'ai vu une Porsche, ouais, super. Elle est où la bière? Voilà. Et le but du jeu, c'est quand même de boire des bières avec tes potes et dans une ambiance de bagnole. Clairement, moi, j'allais souvent voir des matchs de rugby avant, je m'intéressais au rugby, un peu moins maintenant, mais enfin, je veux dire, je me calais le cul dans un stade, je voyais rien. Bon, déjà, parce que je buvais beaucoup de bière, mais après, bon, tu vois les mecs qui courent, tu vois un ballon, tu vois des nez qui cassent de temps en temps, t'entends que ça craque et tout, mais tu vois pas le match. Le match, tu le vois carrément mieux à la télé. Une course de bagnole, c'est pareil. Tu la vois mieux à ta télé, tu la vois mieux devant ta télé que. Posé sur un gradin en bout de ligne droite où tu les vois débarquer à 300, tu les vois un quart de seconde toutes les deux minutes. Voilà, le but du jeu, c'est la bière. Faut arrêter, faut être clair au bout d'un moment. Si tu veux un circuit, c'est pour la bière.
Ouais, c'est l'ambiance. Hein.
C'est l'ambiance.
Ouais, si
c'est
regarde les 24 heures du Mans. Tu vas aux 24 heures du Mans, tu vas pas pour la course. Au bout de 2 heures, tu sais plus qui est en tête, tu sais plus qui, de quoi, la nuit.
parce que t'es trop bourré, soit parce que voilà, t'en as rien à foutre. Mais je veux dire, si tu veux vraiment regarder une course pour le sport pur, tu vas pas au circuit. Si c'est juste pour le sport, voilà, tu vas pas au circuit, tu la regardes devant ta télé. Si tu vas, c'est plus pour l'ambiance et pour le côté festif et pour l'ambiance. Enfin, après, la course, c'est presque secondaire, en fait.
Qu'est-ce que tu disais?
Alors, il n'y a que moi qui dis ça, qui pense comme ça.
Non, je te rejoins un peu dans la philosophie. Hein.
Moi, je trouve ta vision quand même un peu réductrice. Quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu te rends sur un événement, ouais, bah ouais, le côté fiesta entre potes et tout, je bois des bières, nanani, nanana, c'est cool. Mais après, quand tu kiffes vraiment le truc, ouais, bah, mater une vidéo sur ta télé ou sur YouTube et voir passer la caisse devant toi, même si tu es 100 mètres derrière les grillages, c'est pas pareil.
Moi, pareil, mais quand je veux dire, quand tu t'intéresses au sport en lui-même, la valeur intrinsèque du sport, les trajectoires, qui c'est qui en premier attend, il a perdu 2 secondes, machin. Quand tu es au circuit, tu ne vois pas tout ça. Tu n'as pas toute la télémétrie, les vues pilotes, les machins. Tu n'as pas tout ça.
Dans la vie, ouais, mais ça, tu le regardes quand tu reviens chez toi après. Mais je te confirme, dans la vie normale, je fais beaucoup de rallye, puisque là, ce n'est pas la vie normale, il n'y en a plus. Et c'est vrai qu'effectivement, ouais, tu vois passer le mec en vrac comme un bâtard avec une roue dans le fossé, le gravier qui gicle et qui atterrit dans ton sac photo parce que c'est les normes de sécurité, tu n'en as rien à foutre. Et puis, deux secondes après qu'il soit passé, bah, tu es sur ton téléphone pour essayer de choper le classement sur Facebook. Parce que forcément, dans un champ de betteraves au milieu de nulle part, ouais, là, tu ne peux pas suivre la course. Tu peux la ressentir, mais tu ne peux pas la suivre.
C'est pas je te rejoins. Après, c'est là quand même où je ferai quand même le discernement entre le rallye et le circuit. Je te rejoins. C'est vrai que le circuit, en vrai, les sensations, en tant que spectateur, tu les as. Moi, j'ai les sensations quand je vais voir, par exemple, justement, les courses de Peter Otto. Parce que c'est encore des caisses qui n'étaient pas bridées. Tu as l'ambiance, tu as le bruit. Et puis, il y a la légende qui va avec les voitures. Quand tu vois devant toi une 250 GTO, une GT40, des BMM1 avec ce Procar, etc. Enfin, moi, je sais, j'en ai chialé. Hein. Ma femme, la fois où je l'ai menée, je me suis retrouvé devant une 250 GTO. Elle m'a regardé, j'avais les yeux comme un gamin. Et elle me dit, je te comprends. Voilà. Le rallye, c'est un peu pareil. Le rallye, moi, je me rappelle des passages de Carlos Sainz ou de Didier Auriol. Si tu n'es pas au bord de la route, que tu les regardes à la télé, tu ne te rends vraiment pas compte de la vitesse à laquelle ils passent. Voilà. Et par contre, le circuit, là, c'est vrai, je te rejoins, Julien. Tu vas voir les 24 heures du Mans. À part, moi aussi, tu as toujours le bruit. C'est toi qui as posté, justement, Martin, il n'y a pas longtemps, une vidéo de la 787B dans les Hunaudières, où tu l'entends. Je pense que le mec, tu l'entends dans la ligne droite et tu entends le Wankel qui hurle comme un starbé. D'ailleurs, à un moment, tu dis, il y a un truc qui ne va pas. La voiture, on l'entend, on ne la verra jamais passer. Et au dernier moment, tu la vois. Non,
mais moi, je croyais que c'était une boucle, tu sais, une boucle à la con avec une boucle. En fait, tu entends le bruit, mais tu la vois jamais. Mais si.
Je te rejoins. Pour le côté intrinsèque du sport qui est les résultats, la performance qui est en tête, qui est machin, qui est truc, oui, effectivement, quelque part, c'est le mieux aujourd'hui, c'est d'aller au bord de la route et d'avoir son smartphone avec soi pour suivre en l'instant T les résultats. Mais après, non, pour en revenir au passage de l'électrique, à part le bruit, bon, et encore, putain, le bruit, c'est vachement important dans le sport auto, quoi. Justement, hein, la vidéo de la 787B, excusez-moi, hein, la caisse, elle ne ferait pas ce bruit-là. Tu peux prendre la dernière Porsche, la 919 hybride, là, qui se sont servis pour battre les records.
C'est pas la même.
Hein. Puis, elle peut passer même trois fois plus fort que la 787B. Hein. Mais à partir du moment où tu n'entends pas le moteur hurler à 8 km à la ronde, moi, je trouve que tu perds quand même quelque chose.
J'ai eu la chance de faire un peu la crème du sport auto. J'ai fait les deux derniers Grands Prix de Formule 1 au Paul Ricard. Et ben, j'ai envie de te dire, le peloton de la F1 moderne, quand tu vois le débarquer, c'est vachement décevant, quoi, au niveau de
je sais, c'est assez.
Parce que tu as plus l'impression de voir une bourre de TTI Rockrog dans une zone industrielle un vendredi soir qu'un Grand Prix de Formule 1. Quoi.
Stage 3, donc, frère.
Ça rate
frérot,
pardon. Stage 3.
Je revois un peu mon vocabulaire Jones. Là, en ce moment, je suis en train de me taper pas mal de vidéos d'Akram.
Mais à jour.
Donc, pour ça, justement, j'essaye de. Ouais, tu vois, frérot.
Vidéo d'Akram, t'as vu le petit troll de François Delecourt l'autre fois?
Ah non.
C'est pas mal, ça. Là, il avait passé une photo d'un série 5 marbré dans un platane, sûrement quelque part dans Paname. Tu vois, un mec avait voulu faire le kéké. Et François Delecourt, il a commenté un petit cours peut-être. En interrogation.
Ah ouais.
J'ai trouvé ça assez fun.
Ok les gars, bon bah écoutez, on a fait bref sur le sport auto, mais bon, c'est vrai qu'on a dit ce qu'on avait à dire.
On a digressé un petit peu, mais c'était.
Ouais, sympa. Bon, non, mais voilà, c'était surtout, je te dis, moi, c'était surtout cet avenir là dans le sport auto qui me semble un peu à deux vitesses, voilà, entre.
Après, tu vois, pour conclure le sujet, quand tu parlais de l'électrique, c'est l'avenir et tout. Mais sur l'électrique, moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne, tu vois, en termes de sport auto. C'est que le sport auto, ça a toujours été, certes, une compétition entre pilotes, mais aussi une compétition entre constructeurs automobiles,
ouais.
Où il fallait avoir la meilleure technologie, où il fallait avoir la meilleure façon de faire et tout. Et ça, pour le moment, dans le sport auto électrique, c'est totalement absent. Dis, regarde leur étendard, regarde la Formule I. Ils ont tous la même bagnole. Il n'y a que les stickers qui changent. Aujourd'hui, tu as DS qui roule face à Porsche, qui roule face à BMW. Et alors que la bagnole, c'est la même, et tu t'aperçois que c'est DS qui est champion face à Porsche. Enfin, excuse-moi, elle est où la crédibilité du truc ? Ça fait rigoler.
Je dis, vous voulez faire de la compète sur la roue DS.
Attention,
vous voulez faire de la compète de bagnole électrique ? Ah, ok, faisons de la compète de bagnole électrique. Bah, à la loyale. Essayez chacun de sortir la meilleure. Et puis, on voit lequel se démerde le mieux à la fin du week-end. Hein. Comme on dit, gagne le dimanche pour vendre lundi. Quoi.
C'est pas forcément de la course auto en Formule I, c'est surtout de la stratégie, de la gestion de batterie. Puis les pilotes qui font la différence. Quoi.
C'est pourri, tu vois.
Je reconnais que les courses de Formule I sont quand même assez chiantes, quoi, parce qu'à part de la queue leu-leu, déjà que les mecs se plaignaient qu'en Formule 1, les dépassements devenaient de plus en plus rares, en Formule I, c'est un peu la même. Ah quoi. Ouais.
Et tu vois pas ce gâchis. Imagine la Formule I, ils ont quand même réussi à avoir un circuit routier en plein Paris. Quoi, tu et imagine les F1 thermiques sur ce tracé. Tu vois pas le carnage, toi.
Ça
aurait été fantastique. Le meilleur Grand Prix de l'histoire.
Alors après, je dis pas l'électrique, c'est l'avenir. Et pour moi, je pense, mais ça, j'en suis intimement convaincu, l'électrique, pour moi, ce n'est qu'une solution de transition. Entre quoi, je ne sais pas. Moi, je l'ai dit la semaine dernière et je recroise à nouveau les doigts que Porsche, qui a décidé de redéterrer cette histoire de carburant de substitution, moi, je croise réellement les doigts que ce soit l'avenir. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article comme quoi, peut-être au niveau de la… Oh, merde, aidez-moi là. La Toyota Mirai. Tu vois, ça y est, je commence à… La Toyota Mirai, pardon ?
La pile à combustible.
Voilà. Sauf que après, c'est pareil, les mecs, ça me fait
parler.
Ils te disent non, moi, l'électrique, j'y crois pas, je crois plus à. Oui, mais la pile à combustible, c'est une voiture électrique, sauf qu'au lieu d'avoir des batteries, tu as un moteur.
À combustible.
Tu as une pile à combustible qui fournit sa propre énergie. Mais pareil, l'autre fois, je lisais un article où il y a quand même une boîte qui a réussi à breveter des systèmes de cartouches, un peu comme des extincteurs, dans lesquels ils mettent l'hydrogène. Ils ont réussi donc à mettre l'hydrogène sous forme de pâte. la chartreuse aussi. la poire.
En Savoie, c'est du génépi.
Et ils ont réussi donc à mettre l'hydrogène sur forme d'une pâte qui remplisse Et en fait, je trouve que l'idée est plutôt sympa parce que tu sais que le problème de l'hydrogène, c'est que la transformation de l'hydrogène produire de l'électricité engendre des températures très, très importantes. C'est ça qui leur pose surtout souci avec l'hydrogène. Et ils disaient que le fait d'avoir réussi à contenir le carburant de cette façon-là, en fait, quand tu n'as plus d'hydrogène, plutôt de faire le plein comme tu fais aujourd'hui, tu vires ta cartouche et tu en mets une nouvelle. Voilà, un peu comme une batterie que tu fous dans ton appareil photo, clac, clac. Donc, ça pourrait être une solution qui pourrait permettre de développer l'hydrogène. Mais honnêtement, moi, je crois plus au carburant de substitution. Le Brésil, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. C'est ce que je disais la semaine dernière. Si les mecs décidaient, pour moi, c'est toujours pareil, c'est une question de pognon. Aujourd'hui, il faut quand même être réaliste. L'électricité, ça y est, là, ils ont tous foutu les budgets recherche et développement dedans. Ce n'est pas pour faire machine arrière maintenant. Donc, je pense qu'il va falloir malheureusement y passer le temps qu'ils nous trouvent des solutions alternatives. Bon, après, il ne faudra pas rêver. Une fois que l'électrique sera là, moi, je souhaite que l'électrique garde et reste à sa place qui, pour moi, est le petit trajet quotidien entre ta baraque, l'école, les courses, les deux, trois conneries, les deux, trois trajets. Pour moi, je pense que si l'électrique, là, on ne nous fait pas chier, qu'on nous dise ça reste ça, mais à côté, qu'on se batte contre les ZFE pour qu'on puisse continuer à rouler avec nos voitures essence, même si demain, dans ton coupé Fiat ou dans ma Jaguar ou dans ta Honda, c'est ça, tu as une Honda, toi, non, Martin?
Alors, je roule en Ford, moi.
Voilà, dans ta Ford. Même si on nous dit, t'arrêtes de mettre du 98, du 95, moi, je m'en bats les couilles. À partir du moment où je mets ma clé et ça tourne et que quand je soude à droite, ça parte de la même façon. Mais on peut même me dire demain, tu bois du Genepi, tu pisses dans ton réservoir, ça va marcher de la même façon. Il n'y a pas de problème, les gars.
Je peux dire, j'ai déjà… Genepi
et j'y vais, quoi.
J'ai déjà un peu anticipé. La Ford, ça fait 5 ans que la carte grise est en mon nom, mais ça fait 5 ans qu'elle roule à l'E85.
Elle est pas mal, hein.
C'est une des rares flex-fuel d'usine qui a été mise sur le marché. Et bon… Le problème, c'est que c'est une solution. Ça, c'est au quotidien, pour moi, c'est génial. Ça fait 5 ans que je paye mes pleins 30 balles, c'est purement jouissif. Hein. Mmh. Avec l'entretien d'un moteur essence old school, donc c'est-à-dire rien, on ne va pas se mentir. C'est vraiment chouette. Le problème, c'est que c'est bien pour moi, mais à grande échelle, c'est pas gérable. Si tu veux faire rouler tout le monde à l'E85, niveau agriculture intensive,
voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, au moment, faut être réaliste.
Voilà, tu peux pas.
Pour faire un litre d'éthanol, il faut flinguer 10 litres de flotte. Donc à un moment, il y a un ratio. Ok. Mais bon, c'est
et
toujours
voilà,
pas…
même pour rouler, on va se faire encore chier. Voilà, on peut même plus flinguer 10 litres de flotte pour faire de l'essence.
Non, mais ben voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Si les constructeurs investissaient voilà, dans le développement de l'éthanol, dans le développement d'énergie propre, comme ils l'ont fait ces dernières années sur le diesel… Parce qu'il ne faut pas oublier que le diesel, là, ils ont mis le paquet pour tomber à 3 litres. Donc, pour moi, c'est juste que pour le moment, il n'y a pas la rentabilité. Le diesel, c'était intéressant. Ça représentait 80% des voitures vendues. Donc, plus on misait sur le diesel, plus on amortissait, plus on vendait des bagnoles. Donc, c'était intéressant pour eux. Aujourd'hui, pourquoi ils sont tous en train de rechercher et pour moi, c'est la seule aujourd'hui cible des recherches et développement, c'est l'autonomie des batteries. Voilà, parce que il y a que ça aujourd'hui qui va. Mais ça va durer combien de temps cette connerie comme on disait, demain tu files une voiture électrique à chaque Français. Le mec qui habite au 7e étage là dans son immeuble, il fait comment pour brancher sa bagnole?
C'est ça. C'est des trucs tout bêtes. Et puis même de toute façon, on avait déjà un petit peu parlé en filigrane quand on abordait le sujet de l'électrique à chaque fois. Tu as les aspects pratiques comme ça au quotidien. T'as le réseau électrique, il dit regarde, chaque hiver on nous casse les couilles en nous disant voilà. Attention, va peut-être y avoir un blackout.
Ouais, éteignez une ampoule
dans les baraques. Alors si en plus tous les monsieur Durand de Français de Navarre branchent leur bagnole le soir à 20h, on va en passer des hivers au bord de la cheminée, tu vois. Donc enfin voilà, il y a aucune vision à long terme. Et quand tu raisonnes à très long terme, si l'électrique devient la norme, tu vas arriver sur un bouleversement géopolitique aussi. Puisque la ressource stratégique, ce ne sera plus le pétrole, ce sera les métaux précieux que tu fous dans les batteries et dans les calculateurs électroniques. Et du coup, ça ne sera plus les mêmes endroits dans la planète qui seront intéressants.
J'en reviens un peu au sport auto.
Là, je suis parti loin. Là,
mais… Le sport auto, c'est ce qui a permis pendant des années de pouvoir tester des technologies et de pouvoir les adapter après à la voiture de monsieur tout le monde.
Mais c'est ça,
je rejoins. Le problème du sport auto aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'électrique, il n'apporte rien. Il faudrait effectivement qu'on commence à lâcher un peu les ingénieurs pour trouver des solutions un peu farfelues hein, qui vont, pour que ça puisse évoluer, avancer et que les budgets débarquent et qu'on puisse arriver à quelque chose d'un peu plus…
Tu sais, j'ai envie de te dire, malheureusement, la castration, elle a lieu aussi dans le thermique. Hein. Tu vois, aujourd'hui, pour attirer les constructeurs, il faut leur promettre qu'ils peuvent gagner potentiellement. Donc, quelle que soit la discipline, il faut une réglementation technique ultra carrée pour que, entre guillemets, il y ait une égalité des chances et que ce soit peut-être le mec derrière le volant qui fasse la différence.
Le problème, c'est que les ingénieurs n'ont jamais été sérieux. On l'a vu avec le groupe B. Dès que tu commences à lâcher la bride à un ingénieur, les mecs qui partent dans tous les sens, ça explose les buts. C'est vrai, c'est ce qui a tué le Procar, c'est ce qui a tué le groupe B. Ouais. Bon, le groupe B, il y a eu les accidents, mais pourquoi? C'est parce qu'à un moment, les bagnoles devenaient…
C'était devenu trop.
Voilà. C'est ce qui a… D'ailleurs, vous avez vu, on en a parlé, c'est ce qui tue… La Honda vient d'annoncer qu'ils arrêtaient BTCC au terme de la saison. C'est ça, c'est qu'à un moment, le budget devienne incontrôlable. Et puis, forcément, les écuries… Puis ça va être pire, hein, puisqu'aujourd'hui… La politique chez les constructeurs, c'est la rentabilité, quoi qu'ils fassent, que ce soit des plateformes, que ce soit des moteurs, que ce soit des bagnoles, que ce soit du sport auto. S'ils dépensent un euro, il faut qu'ils en gagnent 3, 4, 5, 10 en c'est face. Ça.
La rentabilité économique à tout craint. Et voilà, je vais encore sombrer dans le passéisme, mais tu parlais de l'époque du groupe B. Bon, ouais, elle était un peu… c'était l'extrême et elle a fini par se tuer elle-même. Mais remonte un petit peu avant, au début des années 80, à l'époque du groupe 4 et tout. Tu voyais le championnat du monde des rallyes. Tu avais une Ford à moteur 4 cylindres avant et propulsion qui affrontait une Lancia à moteur V6 central arrière et propulsion qui se tapait face à une Audi avec un 5 cylindres turbo et une traction intégrale. Enfin, tu vois, c'était... Enfin, voilà, tu avais un vrai, entre guillemets, brainstorming où chaque constructeur apportait sa solution technique pour être le plus rapide. Je dis, regarde le WRC aujourd'hui, il te reste Ford, il te reste Hyundai, il te reste Toyota. Bah, leurs trois bagnoles, c'est quoi? C'est une Citadine avec un kit de Goldorak et un 6 turbo sur vitaminé dedans. Ah, c'est ça, les trois bagnoles, c'est les mêmes, en fait, quand tu réfléchis. Alors qu'avant, bon, bah voilà. Et tu regardais en F1, c'était pareil. Tu avais repassé sur DMV il n'y a pas longtemps. La Tyrell à 6 roues. Voilà, les trucs délirants. La Tyrell à 6 roues, la Lotus et la Brabham aspirateur pour l'effet de sol et tout, avec le ventilo à l'arrière. Bon, c'était des solutions techniques délirantes. Les mecs, parce que voilà, il y avait l'éclair de génie, la volonté de faire différent, bah, ils arrivaient à obtenir de la performance. Oh, aujourd'hui, tu n'as plus trop ça quand même. C'est devenu assez
pisé. Trop de règles, plus les règles.
Quand tu vois qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'un pilote se prend 60 millions à l'année, sans les primes, sans les sponsors et tout. Bon,
tiens, tu vois, là, je me suis maté ces derniers jours. Là, ils vont sortir là, sur Netflix, la saison 3 de Drive to Survive, là, leur série documentaire sur la F1. Et quand tu vois l'année dernière, la polémique de la Mercedes Rose de Racing Point, soi-disant qu'ils avaient copié la Mercedes de la saison précédente pour devenir rapide tout d'un coup. Au final, quand tu regardes la réclamation de Renault, tu te dis, les mecs, ils hurlaient au scandale pour des écopes de frein, quoi. Pour une pièce de carbone de 20 cm carrés. Ça te situe le niveau d'enculage de mouche auquel on est arrivé, quand même, quoi. À la grande époque, quand tu parlais de tricherie, voilà, quoi. C'était, tu avais un extincteur où tu avais du méthanol dedans, c'est, voilà, tu avais des trucs comme ça, tu vois, de la vraie triche, quoi.
La filouterie.
La filouterie, voilà.
La filouterie.
Dont les Rital étaient des grands spécialistes.
Oh
ça,
oui.
C'est ça que tu apprécies.
Comment ils ont fait homologuer les bêta en groupe B.
Les Japonais ont été bons.
Vous la connaissez aussi, l'histoire.
Ah, les vous Japonais aussi, avec le turbo à géométrie variable.
C'est Lika, ouais. Non, Julien, voilà, dis-nous là, les bêta en groupe B.
Alors, les bêta en groupe B. Il fallait qu'il y ait 400 voitures homologuées pour la route, les stradales. Lorsque les commissaires sont venus valider...
Ah oui, je me rappelle, entre midi et deux,
lorsque les commissaires sont venus valider qu'il y ait bien 400 voitures en Italie, à Turin, l'ANSIA leur a dit, il y a 200 voitures sur un parking, on va vous emmener voir ces voitures, et ensuite on ira manger, et ensuite on ira voir les 200 autres. Ils sont allés donc sur le parking, compter les voitures, 1, 2, 3, machin, jusqu'à 200, très bien. Juste après ça, ils sont allés au restaurant. Donc, l'Ancia, ils les ont rincés comme il faut au restaurant. Pendant qu'ils les rinçaient, ils ont pris les 200 voitures, ils les ont emmenées sur l'autre parking. Après bouffer, ils ont emmené les commissaires sur l'autre parking. Ils leur ont dit, ben voilà les 200 autres voitures. Ils ont compté les voitures, ça fait 400. OK, vous êtes homologués. Merci, bonsoir.
Ça, c'est la classe.
Ça, c'est les Italiens.
Oh, c'est la classe.
Voilà. Non, mais voilà, c'est de la filouterie. C'est de la filouterie. Bon. C'est,
après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Parce que
mais non, mais bien sûr que non. Mais voilà.
Voitures,
mais c'est ce qui était marrant. C'est ce
qu'ils avec leur smartphone. Et puis surtout, sur les 200 chauffeurs que tu paierais pour déplacer les 200 bagnoles, tu en aurais au moins 55 qui ne viendraient pas taffer. Parce
mais les mecs, ils t'auraient balancé déjà, les chauffeurs, aujourd'hui. T'as un chauffeur, il fait un selfie avec la bagnole en plein machin. Non, mais aujourd'hui, c'est mort.
Ah, voilà, on est en train de ken la FIA.
Mais non, mais c'est comme les arceaux de sécurité dans la bêta. Les arceaux de sécurité, ils disaient qu'on a mis des arceaux de sécurité. Les machins, c'était des trucs en polystyrène, mais jamais personne n'est allé vérifier. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien du tout. Ils s'en battaient les couilles, les années 80.
Là, tu confonds avec le multiplat QGDT avec le PVC. Non. C'est OK, ils étaient légers les arceaux à l'époque, mais ils étaient quand même en métal. Ils étaient quand même en métal.
Bon, OK. Quand tu iras dire ça à Henri Toivonen. Hein,
ouais, mais ça, c'était un autre problème. Ça, c'était le réservoir qui avait un peu explosé sur un turbo chauffé à blanc. Quand tu tombes dans un ravin avec une voiture hautement inflammable, malheureusement, tu as beau avoir un arceau aussi bon qu'il soit, t'en réchapperas pas. Parce qu'effectivement, oui.
Et Bettega, et l'accident de Bettega, quand tu vois la lancette Bettega,
Oui, ou l'accès ou l'explosion de la RS 200 de Sutter autour d'un arbre.
Non, mais tu sais, il y avait, c'était pas la sécurité, c'était une autre sécurité, on va dire. Voilà.
C'était une autre époque. Enfin, on en a parlé quand on a fait le spécial Stirling Moss de Rétrocourse. À l'époque, les mecs qui s'asseyaient dans une bagnole, ils mettaient leur casque, ils allaient embrasser leur femme et leur gamin, et ils savaient pas s'ils allaient les revoir quelques heures après. Enfin, ça faisait partie du sport, quoi. Ouais, tu disais, à un moment, trop de sécurité, trop de règles.
Je me rappelle.
Regarde les spectateurs, regarde cette histoire du groupe B quand les mecs ils allaient courir en Argentine, où tous les mecs ils étaient au milieu de la route, ça faisait comme une vague humaine qui s'ouvrait. C'est pas pour ça que les pilotes en plus ils levaient le pied. Hein. Les mecs qui soudaient de la même façon, c'était juste aux spectateurs de gérer le moment où ils se dégageaient de la route et le moment où ils se remettaient. Et après, je vais être clair, c'est pas pour ça qu'il y avait moins de morts ou plus de morts qu'aujourd'hui. Alors, bon, il n'y avait pas Internet, peut-être qu'on ne le savait pas, tu le diras aussi.
C'est possible aussi.
Mais je veux dire, mais pour moi, et on n'a jamais rempli autant les bords de route de spectateurs de rallye, on n'a jamais autant rempli les gradins des circuits de F1 ou 24 heures du Mans. Enfin non, 24 heures du Mans, c'est dans les années 90, je crois, où ils ont battu tous les records de spectateurs. Et les années 90, c'était quoi? C'était les groupes C. Les groupes B du rallye, on les a eus en groupe C en endurance.
C'était Mazda, Sauber, Jaguar.
Voilà, c'était des monstres de puissance où les mecs disaient, la puissance réelle, c'est pas celle qui est écrite sur le papier. Hein. Les mecs expliquaient. Mais pour moi, la magie du sport auto, ça venait de là, quoi. C'est qu'à un moment, ça doit faire rêver, ça doit faire briller les yeux des petits garçons et des petites filles. Et elle est belle, cette phrase. Et aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, tu vas au bord d'un circuit. Je te rejoins à un moment, effectivement. Aujourd'hui, tu vas au bord d'un circuit. C'est pas normal que tu kiffes plus l'ambiance que ce qui se passe pas sur le circuit, quoi.
C'est ça. Voilà.
Mais je rejoins du coup ce que disait Martin aussi. On a tellement voulu aussi banaliser les choses et tellement uniformiser les règlements, alors pour des questions marketing, de budget, parce que les constructeurs, ils veulent chacun leur part du gâteau. On le voit avec la F1, hein, c'est ce qui a un peu tué la F1. Bon, excuse-moi, moi, quand je vois l'année dernière l'histoire de Lewis Hamilton avec toute son histoire sur le racisme. Et les mecs, putain, il faut arrêter un moment, les gars. Les mères de l'esclavage, c'était au XVIIe siècle.
Ah, mais tu vois,
le mec, il prend 60 millions et il va crier pour. À un moment,
c'était dans l'air du temps.
Pour prendre du recul. Oui, mais je te rejoins. C'est comme aujourd'hui.
On brillait derrière. Mercedes, ils ont repeint la bagnole en noir. Et tout le monde s'est agenouillé sur la ligne de départ comme des bons petits.
Et ça marche dans l'esprit de l'idiocratie ambiante, ça fonctionne. Oh là là, vous avez vu, c'est en fait, toutes ces conversations avant, c'était dans les bars, dans les PMU, mais ça restait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Et les mecs qui tenaient avant des conversations dans les bars, aujourd'hui, ils font des groupes. Et puis l'union fait la force. Hein. Avant, c'était des cas isolés dans les villages. Hein. Aujourd'hui, c'est plus des cas isolés, c'est des mecs qui se retrouvent tous ensemble sur Twitter, sur Facebook. Et comme ils sont 200, 300, ils pensent qu'ils ont de l'importance. Et comme les médias leur donnent de l'importance, ça finit par en prendre, malheureusement. Quoi. Mais bon, on s'est un peu échappé du sujet, mes chers collègues.
Ouais, les digressions sociétales, là. Sur le sport auto, là. Ça fait deux fois qu'on s'y fait piéger. Ouais. C'est chaud quand même.
Ouais.
Comme quoi, c'est intimement lié, après tout.
Finalement, auto, ouais. Finalement. C'est, bon, c'est écoutez.
C'est clair qu'une vitrine.
On a dépassé l'heure d'émission. Je vois que Julien est en train de piquer du nez.
Mais non, t'inquiète.
laisse-moi te prendre pour excuse alors que je ne tiens plus. Moi, tu sais que passer 22h10. J'ai du mal à de
part. Non, mais c'est parce que j'ai fait la sieste à midi, c'est pour ça.
Ah, mais il est bien là, il est dans le Fiat.
Il est refait. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Bon, franchement, c'était quand même beaucoup plus sérieux que celle de mardi dernier, hein, cette émission.
Peut-être un peu trop, je dirais.
Je vais en avoir honte.
Titi, tu veux que je dise deux, trois saloperies sur les mers, là, vite fait, histoire de relever le niveau
Je ne sais pas, Tim est connecté.
Saloperies sur la tienne, hein, si tu veux, vas-y.
Alors, je déconne. Je
non, bon, en même temps, c'était en rapport un peu avec le sujet. C'est vrai que bon, le sujet était pas trop. Tu me diras, là, la semaine dernière, c'est pareil. Les mecs qui font chier au bord des circuits, à la base, le sujet ne prêtait pas à ce qu'on a fait. Voilà.
On a les rédacteurs qu'on mérite.
Merci. Je ne sais pas comment je dois apprendre celle-là. Écoute, je vais tranquille, en dormant, et on en reparle demain. Si ça...
Se rip en paix.
Bon, ben, les gars, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée. Allez,
bonne soirée, les mecs.
Et puis, je vous dis à la prochaine, au prochain podcast d'ALEDMB. Allez, merci beaucoup. À bientôt.
Salut, ciao, salut. Ciao. Bisous, bisous.